Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de Pluripol. À l'occasion des élections vaudoises qui auront lieu au mois de mars, nous avons décidé de faire une série d'entretiens avec différents candidats au Grand Conseil pour vous présenter leurs différences de parti et de programme et pour pouvoir vous permettre de vous faire une opinion sur ces différents points de vue et ces différents candidats qui sollicitent vos suffrages. Pour ce premier entretien, je reçois un candidat du POP que je vais laisser directement se présenter.
Oui, merci. Alors, merci pour cet entretien. Alors, moi, je m'appelle Jordan Villemain. Je suis président des jeunes POP et je suis candidat avec le POP pour l'Ouest lausannois. J'habite à Renan et je travaille à Neuchâtel où je suis ingénieur électricien.
Parfait. Alors, nous allons directement commencer dans le vif du sujet. Je vous propose, pour commencer, de s'intéresser aux idées générales du parti que vous représentez. Et donc, est-ce que vous pourriez présenter les points essentiels de la philosophie générale du POP?
Alors, le POP, on est un parti de défense des travailleurs. Donc, pour nous, c'est un de nos grands chevaux de bataille, c'est améliorer les conditions de travail, les conditions de vie de, en gros, l'ensemble de la population. On a un projet sur long terme d'aller vers une société socialiste. Donc là, ça voudrait dire d'avoir les grands secteurs de l'économie, les principaux secteurs de l'économie, par exemple l'énergie, la mobilité ou d'autres secteurs comme ça, essentiels, qui soient à main publique, donc contrôlés démocratiquement par la population. Donc c'est pour ça qu'on se bat, pour finalement qu'on puisse décider collectivement quelle direction on veut pour la société.
Parfait, merci bien. Et donc, à partir de cela, si on commence gentiment à rentrer plus spécifiquement dans le projet pour ces élections, quels sont les principaux objectifs du POP pour la législature qui va s'ouvrir cette année?
Oui, alors on a mis 5 points de programme en avant pour cette législature. Le premier, c'est les transports publics gratuits. Donc on vient de lancer une initiative à ce sujet qui a abouti, donc on a récolté des signatures avec d'autres organisations. C'est un projet qu'on milite depuis longtemps au POP pour ce projet-là. Avec les jeunes POP, on a déjà fait une pétition pour les transports publics de moins de 25 ans il y a 3-4 ans. Donc c'est un projet d'un point de vue social et écologique qui est important pour nous. Le deuxième point de programme qu'on va mettre en avant pour cette législature, c'est le salaire minimum. Donc c'est finalement de pouvoir permettre à tout le monde qui travaille d'avoir suffisamment pour vivre et de ne pas devoir soit avoir de l'aide de l'État parce que le salaire n'est pas assez haut, soit même devoir vivre dans la précarité. Un troisième point du programme, c'est une caisse maladie publique. Donc c'est... avoir une caisse maladie, donc le but ne sera pas la recherche du profit, mais qui sera vraiment de répondre aux besoins de la population. Donc c'est par ce projet de caisse maladie publique qu'on veut y arriver. Il y a un projet du coup qui est assez lié, c'est garantir finalement des hôpitaux publics et de proximité. Et cela, ça peut passer par exemple par le fait de reconnaître dans la constitution vaudoise comme le CHUV étant un hôpital public. Puisque actuellement au Parlement, il y a des attaques pour essayer de faire une privatisation un peu par étapes. Et c'est ce qui souvent va après mener vers une logique de profit et qui va vraiment affaiblir l'hôpital du CHUV et l'ensemble des hôpitaux vaudois. Et oui, et le dernier point de programme qu'on met en avant, c'est le taux unique d'imposition entre les communes. Donc ça, c'est l'idée que peu importe dans quelle commune on vit dans le canton, c'est qu'on paye la même quantité d'impôts par rapport à sa fortune. Parce que là, actuellement, il y a des communes qui sont considérées comme des communes plus riches, qui ont des taux d'imposition plus bas. Et donc, ce qui fait que ça attire plus de contribuables riches. Et du coup, c'est une inégalité devant l'impôt. Puisque les personnes comme moi qui viens d'une commune Renan, qui est une commune pauvre, les travailleurs qui y vivent doivent payer plus d'impôts. Et donc ce n'est pas un système très juste.
Merci bien. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans certains points et certains détails du programme. Premier point obligé par l'actualité. Nous allons traiter différents thèmes qui ont eu lieu ces dernières années. Le premier est un peu malheureux, mais obligatoire actuellement. Il est lié à la pandémie de COVID-19. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la gestion de la pandémie et éventuellement l'avenir de cette gestion actuellement au mois de mars 2022?
Oui. Alors pour l'avenir de cette gestion, c'est vrai que c'est assez dur à dire parce que c'est dur à dire ce que va être la situation par la suite. Pour l'instant, on va dire que quasi toutes les mesures ont été retirées. Il y a encore juste le masque dans les transports publics et dans les hôpitaux, mais du coup, quelques mesures, on va dire, assez peu contraignantes. Ce sera aussi à voir, c'est quoi l'évolution, on va dire, peut-être plutôt au automne prochain, comme ça. Est-ce qu'il y aura une remontée comme on a pu voir les autres années, ou est-ce que finalement l'immunité de la population est assez bonne? Mais sinon, sur la gestion par le passé, je trouve qu'il y a un peu manqué une gestion collective de la pandémie, où finalement c'était beaucoup. Il y a beaucoup eu les fermetures, qui est finalement quelque chose de très strict, mais on n'a pas mis en place des infrastructures pour gérer la pandémie. Par exemple, les tests étaient finalement. La possibilité de se faire tester était finalement assez restreinte. Si on avait été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, c'était pas forcément toujours évident de trouver des endroits pour se faire tester. Parfois, il y avait des délais d'attente. Je peux par exemple donner un peu en fait, mon exemple. Moi, finalement, j'ai attrapé le Covid le 2 janvier. Donc, c'était un dimanche plus férié. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait quasi pas de choses d'endroits pour se faire tester qui étaient ouverts. Et donc, le seul moyen, c'était d'aller à Beaulieu et d'attendre 2 heures debout. Et je trouve que c'est pas non plus une manière très humaine de traiter, parce que théoriquement, c'est des gens qui sont malades. Donc, on fait attendre les gens 2 heures debout. Dehors, dans le froid, alors qu'ils sont malades, ça fait que les gens n'ont pas envie de se faire tester, même s'ils ont des symptômes. Et du coup, en fait, on n'arrivait pas du tout à contrôler l'épidémie, elle circulait à fond. Et je pense qu'on aurait gagné à finalement mettre plus de moyens pour gérer cela, plutôt que d'avoir une politique un peu, on va dire, restrictive. Où par exemple on a mis en place le pass sanitaire et des choses comme ça. Donc c'était un peu une politique où on cherchait à obliger les gens, par exemple pour la vaccination, où on avait un encouragement, plutôt on poussait, on mettait de la pression, même si je pense que la vaccination c'est quelque chose de bien, mais que c'est pas. Le fait de pousser comme ça et d'avoir vraiment. Pas une solution collective, ça fait que ça a vraiment crispé la société avec les deux camps, comme on a beaucoup vu les débats entre les gens qui étaient pro-vaccin et les gens qui étaient un peu moins pro-vaccin. Et cette division, finalement, ça n'a pas été bénéfique, et je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens, aussi d'argent financier, de moyens financiers, je veux dire. Et ce qui fait que c'est même pas vraiment gagnant, parce que du coup on a eu plus de fermetures que ce qu'on aurait dû, et ça c'est aussi des pertes pour la collectivité.
Merci bien pour cette réponse. Autre point qui a marqué l'actualité de ces dernières années au niveau des manifestations politiques et des élections, c'est ce qu'on a appelé la vague verte, accompagnée également de grandes manifestations dans plusieurs villes du pays sur des thématiques écologiques ou liées au changement climatique. Alors, comme c'est visiblement un sujet qui est tout de même important pour une grande partie de la population, quels sont vos projets principaux sur ce sujet, sur l'écologie, peut-être notamment plus spécifiquement sur l'énergie et la mobilité. On sait que ce sont des points importants au niveau cantonal.
Oui, alors c'est clair que l'écologie, c'est un sujet aussi qui est hyper important pour le POP depuis longtemps. On participe également finalement aux grèves pour le climat, aux manifestations qu'il y a pour le climat. Donc ça, clairement, on est présent, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense qu'un des points vraiment importants du POP, et puis c'est là aussi que parfois il se démarque d'autres partis qui pourraient aussi avoir l'écologie comme motivation, c'est le fait que, pareil, on veut une solution plutôt collective et solidaire que punitive et individualiste. C'est pour ça aussi qu'on s'était opposé à la loi sur le CO2, finalement. Pour nous, tout ce qui est un peu taxe sur l'essence ou des choses de ce style, c'est pas vraiment la solution, parce que beaucoup de gens sont obligés d'utiliser leur voiture pour leur mobilité. Et donc, finalement, c'est punir ces gens-là qui vivent peut-être plus en campagne, ou même qui peuvent vivre aussi parfois un peu en ville, mais qui ont quand même ce besoin-là, sans proposer une alternative aussi facile. Donc c'est pour ça qu'on a lancé notre initiative pour les transports publics gratuits. Nous, là, c'est vraiment se dire, OK, On veut qu'il y ait les gens qui utilisent moins leur voiture. Bah, l'alternative, c'est de proposer des transports publics et que du coup, si on les rend gratuits, ça fait que c'est une motivation à les utiliser. C'est vrai que...
Donc on était sur l'écologie et sur la mobilité. Vous parliez des transports publics gratuits. Est-ce qu'il y avait encore autre chose de particulièrement mis en avant sur l'écologie? Je parlais avant d'énergie, mais ça peut être aussi éventuellement un autre aspect de cette thématique.
Oui, alors globalement, c'est aussi que ce qui est cherché, c'est de tout régler par les taxes. Et nous, on pense que le problème avec les taxes, c'est surtout pour les entreprises, c'est que finalement, ils vont faire le calcul de savoir est-ce qu'ils préfèrent payer la taxe ou est-ce qu'ils préfèrent faire le changement. Et donc, beaucoup d'entreprises, finalement, ils se disent ils font pas les changements parce que pour l'instant, c'est rentable de payer des taxes ou des choses du genre. Et donc, finalement, les multinationales qui sont responsables d'une grosse partie de la pollution, ils font pas les démarches nécessaires parce qu'elles ont encore la possibilité. Et donc, pour nous, on veut qu'il y ait des normes strictes d'émissions de CO2, donc ce soit calculé pour chaque entreprise selon ce qu'ils produisent et tout ça, combien ils peuvent émettre de CO2, et que ce soit des limites strictes à respecter. Et comme ça, c'est vraiment, on a une gestion très claire de la politique climatique, où on émet le minimum de CO2 qui est nécessaire pour satisfaire les besoins des gens. Sinon, il peut aussi y avoir sur le logement, pareil, c'est si on veut qu'il y ait moins de consommation pour tout ce qui est chauffage et tout ça, il faut des bonnes isolations. Donc pareil, il faut que collectivement, on refasse l'isolation des logements, que ce ne soit pas juste au bon vouloir soit des personnes, soit des régies immobilières. Et que pour ça, il faut une vraie politique publique où il y aurait une entreprise qui serait mandatée pour aller faire l'isolation des différents logements et financer publiquement plutôt que de juste laisser en soi le marché s'en occuper parce qu'on a vu avec ces dernières années que ce n'est pas quelque chose d'efficace pour avoir un comportement écologiquement responsable.
Très bien, merci pour cette réponse. Autre manifestation qui a marqué les dernières années, c'était ce qu'on a appelé la grève des femmes et qui a mis sur le devant de la scène médiatique et politique les sujets liés à l'égalité homme-femme, à la situation des femmes en général. Et donc, question simple, quel est le point de vue du POP sur ces sujets-là et quelles sont éventuellement les propositions ou projets de votre parti?
Comme pour la grève du climat, on a aussi été présents dans les manifestations de la grève des femmes. Donc, c'est aussi le féminisme, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. C'est clair que un des points principaux, c'est du côté des salaires finalement, où il y a encore des inégalités de salaires qui sont assez grandes entre les hommes et les femmes. Et pareil, si on veut qu'il y ait un changement, on peut pas juste compter sur le bon vouloir des entreprises, parce que c'est ce qu'il y a eu pendant des années et on voit que c'est pas la mesure efficace. Mais il faut des mesures fortes, donc ça veut dire des contrôles dans les entreprises et des sanctions sévères si l'égalité salariale n'est pas respectée. Et ça, c'est très important parce que finalement, une inégalité salariale, c'est des pertes pour les femmes qui sont toute leur vie. Donc, c'est déjà non seulement pendant qu'elles travaillent où elles ont des salaires inférieurs, donc elles ont plus de difficultés à vivre, à satisfaire les besoins. Mais en plus, c'est des choses qui vont revenir aussi à la retraite, où elles auront des retraites plus petites. Donc, toute leur vie, elles auront un niveau de vie moins grand et que juste basé sur le genre. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Après, il y a clairement aussi sur on va dire la sécurité, où moi je suis originaire du Jura et il n'y a pas trop longtemps une femme qui a été tuée par son conjoint à Courfèvre, donc pas loin proche où j'habite. Et ça, c'est une femme qui avait été vers la police pour dénoncer le comportement violent de son conjoint et que la police n'a pas agi. Et donc ça ne doit plus arriver. Il faut vraiment augmenter la formation des policiers pour qu'ils savent vraiment bien comment intervenir à ce moment-là. Je sais qu'il y a des endroits et parfois c'est fait, mais c'est, on voit que ce n'est pas encore suffisant puisque ça arrive encore de nouveau. Et mettre en place des mesures de protection pour les personnes qui se plaignent de conjoints ou d'ex-conjoints qui sont violents. Et globalement, c'est aussi du coup, sur tout ce qui peut être agression sexuelle, c'est quand même aussi renforcer le soutien aux victimes, où beaucoup de femmes ne portent pas plainte pour plein de raisons, parce que c'est encore compliqué. Enfin, c'est toujours des lourdes procédures, et puis qu'il y a quand même tout un discours parfois public qui peut être à encourager les femmes à ne pas porter plainte en disant, soit en mettant une partie de la responsabilité sur les femmes, soit en disant que ça va servir à rien ou tout ça. Et ça doit aussi changer. Il faut que ce genre, que quelqu'un qui agresse une femme ou quelqu'un, qu'il soit sanctionné et que ce soit bien traité par la justice.
Très bien, nous allons maintenant quitter l'aspect plus actualité, manifestation et autres pour nous arrêter sur différents enjeux qui seront certainement importants durant la prochaine législature. Et un point qui est une prévision pour l'instant, mais qu'on annonce quand même comme assez probable, est le fait que le canton de Vaud pourrait atteindre d'ici peu le million d'habitants. Ce qui pose une question peut-être un petit peu générale et simple, mais tout de même importante, c'est comment est-ce qu'on gère un canton à bientôt 1 million d'habitants, ce qui est tout de même une masse de population assez importante.
Oui. C'est clair que ça donne des défis, donc il faut donner des réponses politiques, je pense, fortes. Pour l'instant, je pense que sur la plupart, on va dire que les grands défis, ça sera sur le logement et la mobilité, qu'on peut voir de manière assez facile. Et pour l'instant, dans ces deux cas, c'est assez, surtout sur le logement, c'est assez, on laisse faire le marché en disant que le marché va permettre de réguler, réguler le tout et va permettre de faire que tout le monde aura un logement au prix qu'il veut. On voit que ce n'est pas le cas finalement, que les logements s'augmentent énormément, le prix, qu'il n'y a pas assez de logements disponibles, que c'est aussi qu'il y a trop de logements de luxe disponibles et pas assez de logements à prix abordable. Et donc ça, pareil, c'est, on ne peut pas rester dans cette logique de laisser le marché régler ceci parce que ce n'est pas efficace. Donc ce qu'il faut, c'est... déjà, je pense qu'il faut mettre des règles strictes sur la valeur, sur le prix du logement. C'est-à-dire que des règles par rapport à si la surface, différents critères, hein, ça peut être le nombre de pièces, ça peut être la luminosité du logement, ben mettre un loyer maximum selon des critères définis. Comme ça permettra quand même de bloquer cette augmentation des loyers qui arrive tout le temps. Donc ça, c'est pour les loyers c'est pour les logements qui ont déjà été construits en quelque sorte. Mais pour les nouveaux logements, c'est aussi qui est déjà un service public de construction de logements à loyer abordable. Donc ça, il faut que l'État reprenne la main dessus et ne laisse pas que le privé s'en charger. Et aussi, c'est aussi, il y a souvent parfois de vouloir refaire des logements pour augmenter les tarifs et tout ça. Donc ça aussi, c'est contrôler à cet endroit-là pour que quand les logements sont refaits, que le loyer n'augmente pas de manière abusive. Et puis aussi que les logements soient refaits pour que ça réponde aux besoins de la population. Et par exemple, ne pas faire un logement qui était, on va dire, dans la catégorie loyer abordable en logement de luxe parce que actuellement, c'est pas ce qu'on a le besoin de le plus. En ce qui concerne la mobilité, je pense que clairement, c'est, pour y répondre, il faudra aller vers les transports publics, vers les transports publics plutôt que la mobilité individuelle. Et donc ça, c'est aussi, il faut encourager un maximum les gens de laisser leur voiture pour les transports publics. Et du coup, je reviens sur notre initiative pour les transports publics gratuits, qui, je pense, est une bonne direction. Après, clairement, ce sera aussi développer l'offre. Mais ça ira, je pense que ça ira aussi avec, s'il y a plus de gens qui prennent, ça va aussi développer l'offre. Je pense que ça va être deux choses qui vont en parallèle et que le monde politique a trop tendance à vouloir opposer en disant si on développe l'offre, on est obligé d'augmenter les prix. Alors que je pense que en baissant les prix, l'offre va se développer par elle-même parce qu'il y aura plus de demandes. Voilà en gros sur une gestion d'un canton à 1 million d'habitants.
Très bien, merci. Pour rester sur la question plus démographique, une bonne partie de ce million d'habitants dans le canton de Vaud aura certainement des origines étrangères. C'est déjà le cas et nous voyons qu'il y a une part d'immigration relativement importante dans le canton. Alors, il y a une question qui se pose forcément à partir de ce constat, c'est quelle politique d'intégration pour ces gens qui ont des origines étrangères ?
Oui, alors ça c'est clair que ça dépend beaucoup aussi de quelle est l'origine des personnes. On va dire que les personnes qui sont de pays voisins, ils vont être moins dépaysés que les personnes qui viennent de pays plus lointains, par exemple d'autres continents. Mais globalement, je pense que pour avoir une bonne politique d'intégration, c'est finalement avoir un bon niveau de, enfin que les gens aient un bon niveau de vie ici, parce que si ils vivent dans la précarité, qu'ils ont un métier où ils doivent faire de nombreuses heures supplémentaires pour pouvoir vivre et des choses comme ça, bah ça va pas aider les gens à s'intégrer, parce que finalement ils sont concentrés en quelque sorte à, je veux dire survivre, mais en quelque sorte à nouer les deux bouts, qu'ils n'auront pas le temps pour soit apprendre la langue si le français n'est pas leur langue, si le français n'est pas leur langue maternelle, soit participer au tissu associatif, ça peut aussi être une bonne manière de s'intégrer. Donc ça, pour ça il faut du temps. Donc ça va avec le fait de libérer, enfin diminuer le temps de travail pour libérer le temps à disposition pour faire ce genre de choses. Donc finalement ça n'est même pas qu'une question étranger ou suisse. Je pense que ce serait pour toute la population que ce serait gagnant, mais si on veut vraiment permettre une bonne politique d'intégration, c'est quand même une nécessité. Voilà en gros pour la politique d'intégration.
Très bien. Autre domaine important dont nous avons déjà un peu parlé par-ci par-là, c'est l'économie, forcément. Alors, de manière très générale, quelles sont les priorités de la politique économique que le POP souhaiterait mettre en place pendant cette législature?
Oui, alors du coup, une des mesures que j'ai déjà évoquées, donc c'est le salaire minimum, donc j'ai déjà pas mal parlé, donc je pense que je ne vais pas trop développer cet aspect-là, mais c'est quelque chose d'important pour permettre aux gens de vivre dignement, et que c'est vrai que ce n'est pas normal que quelqu'un qui travaille à 100% doive faire appel à des aides de l'État pour subvenir à ses besoins. Ça ne devrait plus arriver dans un canton riche comme le canton de Vaud en Suisse. Dans les autres points de la politique économique, ce sera aussi finalement autour de la taxation. Donc ça, c'est clairement, il faut que les riches contribuables participent plus financièrement, donc payent plus d'impôts, participent plus à la collectivité, pour permettre finalement à la classe moyenne et aux classes plus pauvres de payer moins d'impôts et du coup, ou d'avoir plus de prestations dans une optique de répartition des richesses. Donc ça c'est hyper important parce que finalement c'est ces gens-là qui font vivre la société par leur travail et tout ça, et donc ils ne reçoivent pas suffisamment par rapport à ce qu'ils fournissent, et les plus riches par contre ils s'accaparent finalement une partie de cette richesse, et c'est pour ça qu'ils le sont. C'est pas par leur force, c'est pas par leur c'est pas par ce qu'ils produisent et tout ça, c'est vraiment parce que ils s'accaparent une partie de la richesse. Et donc, clairement, par l'imposition, on a la possibilité de corriger un peu, même si ce n'est pas sur le long terme, il faudra faire que ce soit corrigé encore plus en amont, mais c'est déjà une première étape. Je pense qu'il y a aussi sur l'imposition des entreprises qu'il va aussi y avoir un sujet qui va bientôt être d'actualité, parce qu'il y a l'OSCE qui a un projet de fixer 15% d'imposition minimum. Donc ça, il faudra déjà non seulement veiller à ce que ce taux soit vraiment payé par toutes les entreprises, parce que globalement, les multinationales arrivent toujours à ne pas payer leurs impôts parce qu'ils utilisent des montages fiscaux et tout ça. Ça, c'est clairement une volonté politique de ne pas lutter contre, parce que ces montages fiscaux, il y en a beaucoup qu'on les connaît, et surtout qu'on ne met pas suffisamment de moyens dans les contrôles fiscaux. On sait que les employés des contrôles fiscaux, ils rapportent plus que leur salaire, donc c'est vraiment une volonté politique de ne pas en avoir plus. Voilà. Et du coup, de faire que les entreprises payent aussi plus d'impôts, enfin, ils payent vraiment leur part, ce qu'ils doivent payer, parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils font. Ça permet aussi de décharger la population et de ne pas faire que ce soit la population qui doit payer pour ces entreprises.
Très bien, nous passons encore à un autre domaine. Actuellement, ce n'est pas seulement dans le canton de Vaud, mais dans tout le pays et même dans les pays voisins, le numérique gagne en importance. Et on voit plusieurs projets se mettre en place pour savoir que en faire, dans quel domaine le développer. Alors, quelle place ou quel rôle pour le numérique dans le canton de Vaud ?
Oui, alors c'est vrai que moi je suis ingénieur électricien, donc c'est des questions qui me parlent puisque c'est dans mon domaine de travail. Je pense que un des problèmes, c'est que comme beaucoup de choses qu'il peut y avoir dans notre société, c'est qu'il n'y a pas un vrai débat sur quelle orientation on veut. Ça va plutôt être le business qui va décider quelle orientation on veut. Donc ça va plutôt être dans une logique du qu'est-ce qui est rentable, et c'est ça qu'on va présenter plus. Hein. Donc ça, c'est aussi dans le domaine du numérique. Ou finalement, même d'un point de vue écologique, on pourrait se dire, ok, est-ce qu'on pense qu'une technologie... X ou Y, est-ce qu'on pense qu'elle est bien? Et si elle est bien, ben on pourrait se dire, ok, on essaye de la développer et de faire qu'elle arrive. Et si elle n'est pas bien, on pourrait se dire, ben on veut plutôt la laisser de côté. Alors qu'actuellement, il n'y a pas du tout, du coup, cette réflexion et ce débat dans le sein de la société. Après, du coup, pour le numérique, c'est aussi tout ce qui est le passage sur, on va dire avant qu'on avait un peu les formulaires papier, beaucoup de choses qui se passent maintenant sur en ligne ou comme ça, ou bien par exemple pour les billets de train qui maintenant c'est devenu complètement entré dans les mœurs d'utiliser son smartphone pour acheter un billet de train plutôt que d'aller vers les machines. Donc ça crée quand même un problème du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, donc ça c'est important que ces gens-là ne pas les perdre. Je pense plutôt que c'est quand même une direction bénéfique parce que ça permet quand même d'être plus efficace et de gagner du temps. Moi personnellement j'utilise beaucoup ce genre d'outils puisque je trouve que c'est quand même plus simple, mais il ne faut vraiment pas que ça se fasse au détriment par exemple des personnes plus âgées qui ont parfois plus de difficultés. Et donc ça, c'est aussi aider les gens qui ont des difficultés avec la technologie à être habitués à ça. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de mon service civil pendant 6 mois au CEFIL à Lausanne, donc j'en ai des cours d'informatique pour des personnes précarisées. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes parce qu'on voit actuellement que quelqu'un qui n'est pas doué en informatique, il est vraiment lésé dans la société. Il a vraiment du mal à faire beaucoup de choses qui sont essentielles. Et donc ça, c'est important, ouais, justement, de permettre ça. Et quand même, il ne faut pas aller trop vite avec ce changement, le passage au numérique, dans le sens où on voit qu'on pousse vraiment dans cette direction-là, que par exemple, justement, si je reprends l'exemple des billets de train, on va quand même de plus en plus commencer à supprimer les endroits où on peut en acheter, les guichets et tout ça. Et donc, ça fait vraiment qu'on oblige vraiment de prendre cette direction-là. Et comme on n'a pas mis en place vraiment des structures pour permettre à tout le monde de savoir les utiliser, ça fait qu'il y a des personnes, elles vont être isolées socialement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas désirable.
Alors, dernière thématique que nous aborderons durant cet entretien, l'aspect plus démocratique. On sait qu'en Suisse, de manière générale, la participation aux différents scrutins n'est pas toujours très élevée. Et là, nous approchons des élections cantonales qui sont le niveau suisse avec la participation la plus faible par rapport au fédéral ou au communal. Alors, à partir de ces résultats, on peut se demander comment est-ce qu'on peut encourager la participation démocratique, ce qui semble tout de même un point assez important, surtout dans un pays qui se revendique comme une belle démocratie où le peuple a beaucoup d'outils pour intervenir normalement.
Effectivement, ça c'est une problématique assez complexe, on va dire. En fait, c'est vraiment pour se questionner sur quelle démocratie on a. Je pense qu'un des problèmes actuellement, c'est que même si le peuple y vote beaucoup, il n'a pas forcément l'impression que son opinion est vraiment prise en compte. Ça, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, quand les autorités finalement perdent une votation, c'est quand même, ça peut arriver plusieurs fois qu'elles ne l'appliquent pas, elles l'appliquent mal, ou qu'elles refassent revoter le peuple jusqu'à ce qu'elle ait une victoire. Moi, je prends l'exemple de la réforme des retraites, où le peuple a refusé à plusieurs reprises d'augmenter l'âge de la retraite, et les autorités reviennent toujours avec ce projet. Donc, on voit finalement que il n'y a pas une volonté de la part des autorités de suivre la volonté populaire, mais il y a plutôt une volonté de faire que la volonté populaire suive les autorités, en gros. C'est qu'on se dit, on refait voter, puis à bout d'un moment, le peuple va finir par dire oui, surtout qu'on va dire qu'il n'y a pas d'alternative possible et tout ça. Et donc ça crée un dégoût de la politique et des votations, je pense, de la part de la population. Pour les élections, c'est pareil, c'est que chaque parti va défendre un programme, mais que le programme ne va pas forcément être appliqué, ne va pas forcément être suivi. Je trouve que c'est aussi un peu un des problèmes, c'est que les élections au Conseil d'État prennent beaucoup plus de place que les élections au Grand Conseil. Sauf qu'en fait, au Conseil d'État, ce sera un système collégial pour les gens élus. Donc, c'est même le but est de même pas forcément appliquer son programme parce qu'il n'y aura pas forcément la majorité pour le faire. Donc il y a vraiment une élection qui prend beaucoup de place où c'est accepter le fait que les gens défendent un programme qu'ils ne vont pas appliquer. Et ça pareil, du coup, c'est qu'il y a des projets qui peuvent être enthousiasmants pour la population, du coup ils soutiennent des politiques pour le mettre en place et puis ils ne le font pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être démoralisant. Clairement, je pense que si on veut une vraie participation démocratique, il faut que ce soit pas genre juste élire des personnes ou juste voter sur des sujets oui non, mais que ce soit vraiment laisser la possibilité aux gens de construire le sujet depuis le début. Donc ça, ce serait complètement changer un peu la manière de voir la démocratie en Suisse, mais ce serait avoir des conseils dans les quartiers, des choses du genre où les gens peuvent discuter, mettre en place des projets. Pour après qu'on puisse mettre des lois et tout ça. Et pas genre juste faire toute une loi et au final juste dire à la population oui ou non. Puisque du coup, finalement, c'est souvent le oui ou non, c'est que ça reflète pas l'opinion des gens. Parce que souvent, c'est ni complètement oui, ni complètement non. Et comme on laisse pas la possibilité de s'exprimer plus que ça, ça fait que c'est assez faible. Sinon, clairement, après, ce qu'il y a dans le débat courant, ce sera toujours des mesurettes, des choses que je peux quand même trouver bien, mais qui vont pas régler le problème en profondeur. Par exemple, ça peut être parfois des vidéos de promotion pour aller voter, ou ça peut être de faire qu'il n'y a plus besoin de mettre un timbre sur son enveloppe de vote pour la mettre. Et donc ça, je pense que c'est des mesures qui peuvent être positives, mais ça ne règle pas du tout le problème que j'ai dit avant, que les gens ne croyaient plus dans notre système démocratique. Et ça demandera des changements en profondeur qui dépasse complètement le cadre d'une ou deux élections, mais c'est vraiment une refonte du système de la démocratie suisse.
Très bien, nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Pour conclure, une dernière question. Durant cette série d'entretiens, Pluripol va surtout essayer de faire des rencontres avec des jeunes candidats, membres des jeunesses des partis, ou en tout cas des plus jeunes parmi les listes. Alors peut-être que certains pourraient nous dire, mais finalement c'est un peu une erreur, ou pourquoi se concentrer particulièrement sur les jeunes? Alors je vous retourne directement cette question-là. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient particulièrement privilégier des jeunes candidats plutôt que, par exemple, des candidats plus âgés qui auraient peut-être plus d'expérience?
Oui, en soi, je pense que c'est pas forcément le... Il ne faut pas privilégier un jeune juste parce que c'est un jeune. Je pense que le plus important, c'est un programme et c'est quel projet politique il y a derrière. Parce que finalement, c'est pas forcément parce que quelqu'un est jeune qui va défendre la jeunesse. Personnellement, moi, je ne me sentirais pas du tout défendu par les jeunesses de droite. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus important de voter des partis où on sent qu'ils vont défendre nos opinions. Après, c'est vrai que c'est important que le Parlement soit représentatif quand même un peu de la population. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeunes par rapport à la population. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que la jeunesse est assez sous-représentée. Donc, ça fait finalement qu'une problématique que les jeunes peuvent plus subir que d'autres catégories de la population, ben, elles vont être plus, passer plus inaperçues au Grand Conseil. Sur ça, je peux donner un peu un exemple où on a fait récemment avec les jeunes POP une pétition pour plus de droits pour les apprentis. Et finalement, en fait, au Grand Conseil, le débat, il a juste tourné autour du fait que il n'y avait que des patrons d'entreprise qui disaient « Non, mais il n'y a aucun problème avec les apprentis. » Et à ce moment-là, on se disait « Mais en fait, pourquoi est-ce qu'aucun apprenti est présent dans le débat ?» Et c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'apprentis élus au Parlement, ni des gens qui ont fait... Enfin, il y a peu de gens qui ont fait un apprentissage qui sont élus au Parlement. Du coup, il n'y avait que la patron des voix, enfin, du patronat, et pas du tout la parole des jeunes travailleurs. Et donc ça, c'est clair que ça passera aussi par le fait de voter qu'il y ait plus une meilleure représentativité des gens au Parlement. Donc ça passe aussi par voter sur la jeunesse, mais du coup sur des jeunes qui défendent quand même un programme auquel on s'en proche et pas genre juste d'avoir le vote jeune, pas juste avoir le vote femme ou autre chose du genre. Parce que voilà, comme dit, c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est femme comme ça qu'on va défendre les gens de notre catégorie. On peut avoir des jeunes qui vont avoir une politique qui sera très dommageable pour les jeunes. Et donc, je pense que le juste soutien aux jeunes n'est pas suffisant.
Parfait. Comme nous arrivons à la fin de l'entretien, je vous laisse tout de même, si vous avez encore un dernier mot à nous dire. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter ou non ?
Ben, je veux bien me remercier pour cette interview. Je pense que c'est assez important, effectivement, de peut-être donner aussi parfois la parole à des gens qui ont moins, qui sont pas les premiers de liste, on va dire, ou les moins, qui sont pas les plus importants dans l'élection, comme là, par exemple, sur la jeunesse. Et je trouve que c'est beaucoup de sujets qui sont très importants et que d'avoir une interview un peu longue où on peut développer les idées, c'est aussi un bon concept pour pouvoir vraiment bah oui, creuser un peu des sujets et pas genre juste balancer des phrases, des slogans un peu à la va-vite.
Eh bien, nous espérons que les auditeurs apprécieront également l'entretien. Sur ce, comme je l'ai dit, c'est la fin de l'entretien. Merci beaucoup de l'avoir accepté, d'avoir répondu à nos questions. Et pour les auditeurs de Pluripol, eh bien, nous vous disons à dans quelques jours pour un nouvel entretien consacré aux élections du Grand Conseil vaudois 2022.